play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini et au-delà.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles.
Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Thibaut vous raconte une histoire d'échelle et de citoyenneté à travers le cas de l'exploitation des gaz de schiste.
Bonjour à tous. Je me présente, Thibaut. Je suis doctorant en biologie à l'ENS de Lyon. Et je travaille en biologie de l'évolution et je suis donc intéressé par l'histoire des êtres vivants. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'évolution du système Terre, évolution qu'on appelle géologie, et à l'histoire d'une espèce en particulier, l'homme. J'ai rejoint le laboratoire junior Des Mesures cette année parce que je suis intéressé par l'aspect transversal de ce laboratoire. Transversal au niveau des échelles considérées, échelle de temps et échelle d'espace, et transversal au niveau des disciplines scientifiques abordées. Au sein du laboratoire junior Des Mesures, nous travaillons à faire réfléchir tout un chacun sur l'importance de la notion d'échelle en science. Dans notre quotidien de scientifique, nous sommes en effet constamment amenés à nous interroger sur la taille des objets qui nous entourent. Ceci est valable pour des objets comme pour le temps. Par exemple, en biologie de l'évolution, il est important de savoir se représenter ce qu'est 1 million ou 1 milliard d'années. Outre les objets scientifiques, sans nous en rendre compte, nous avons tous des a priori sur les objets qui nous entourent, et ils dépendent de notre histoire personnelle, de notre vécu. Par exemple, si je vous parle d'un bateau, l'image qui vous vient aussitôt est-elle celle d'un grand paquebot, d'un petit bateau de pêche ou d'un trois-mâts au milieu de l'Atlantique? Si je vous parle d'un chapeau, est-ce que vous pensez à un haut de forme, un chapeau de cow-boy ou un tricorne façon Napoléon? Donc chacun véhicule ses propres idées préconçues sur chaque objet, de la taille qu'il doit faire, d'où il doit se trouver. Et c'est ici le deuxième levier de Des Mesures, qui est faire réfléchir sur les représentations qu'on se fait des choses de la vraie vie, et pas seulement dans le cadre d'une activité scientifique. Cela est d'autant plus important dans un monde où nous sommes en permanence matraqués d'informations diverses et variées, que l'on ne peut en général pas vérifier nous-mêmes. La démarche importante est d'essayer de se représenter soi-même ce dont on nous parle. Par exemple, si je vous dis maintenant qu'une banque a généré 6 milliards d'euros de bénéfices en une année, c'est le cas du Crédit Agricole en 2015. La BNP en 2016 était 7 milliards d'euros. Évidemment, à notre petite échelle citoyen, cela ne nous parle pas du tout. 1 million, 1 milliard sont des très grandes mesures que l'on ne peut pas visualiser facilement. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qu'on doit faire autant que possible, c'est d'essayer de se représenter la grandeur, et de trouver un repère. Et se rendre compte que, par exemple, 6 milliards d'euros, ça peut être le produit intérieur brut d'un seul pays. Par exemple, le Malawi. Alors, est-ce que c'est beaucoup, ou est-ce que c'est pas beaucoup? Cette démarche est donc un vrai exercice de citoyenneté. Et même si nous ne pouvons pas tout nous représenter, nous avons comme devoir d'essayer. Et en faisant cette démarche, nous pouvons alors juger de manière critique la pertinence d'une information, son importance et son impact. Et en se renseignant, on apprend souvent beaucoup de choses qui nous permettent de regarder d'un œil critique l'actualité.
Gaz, 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 gaz.
Et aujourd'hui, je voudrais justement aborder avec vous un débat qui revient souvent dans l'actualité française, qui est « Doit-on ou non accepter l'exploitation des gaz de schiste en France ?» On nous parle souvent alors de départements très propices, l'Ardèche, la Lozère, le Gard, des départements perdus, mais dont le sous-sol renfermerait des réserves d'hydrocarbures très importantes, et des compagnies comme Total ou GDF, Suez, qui exploiteraient des puits de forage, puits dont on ne sait pas trop pour l'instant estimer le nombre. Les gaz de schiste sont donc des gaz, donc essentiellement du méthane, alors la formule chimique c'est CH4, mais peu importe ici, et ces gaz sont piégés dans des couches souterraines du sous-sol. Ce sont des hydrocarbures dits non conventionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement exploitables, mais ils nécessitent un traitement préalable des roches. Dans le cas des gaz de schiste, ce traitement consiste à fracturer les roches en profondeur, des roches dites magasins, qui contiennent le gaz, pour en libérer le gaz. La fracturation est hydraulique, parce qu'on envoie un fluide sous très haute pression qui fracture la roche en profondeur et fait sortir le gaz par des fissures. Le fluide est essentiellement constitué d'eau, d'où hydraulique, mais on y rajoute des adjuvants qui empêchent les fissures qu'on vient de créer de se reformer. Ces adjuvants peuvent être par exemple des petites billes en céramique. Le gaz est piégé dans les couches géologiques, parfois horizontales, si bien que les forages ne sont pas uniquement verticaux, mais deviennent horizontaux en profondeur et forment un réseau qui peut être un réseau horizontal. Il y a même des puits qui sont dits multilatéraux, qui forment un réseau de drains en profondeur qui prend la forme d'une arête de poisson ramifiée. Et donc ces conduits permettent d'augmenter la surface couverte et, de fait, les roches exploitées. Le gaz diffuse depuis la roche magasin et il est ensuite plus ou moins tranquillement récupéré en surface. Voilà pour le gaz de schiste et ses puits d'exploitation. Je vous ai expliqué ce que c'était dans les grandes lignes et, alors que je disais cela, vous êtes sûrement représenté ce que j'étais en train de dire. Donc maintenant, si je vous parle de puits, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Comment est-ce qu'on se représente cet objet quand on n'a jamais vu de puits de gaz de schiste ? Alors bon, on va dire, un puits de forage de gaz de schiste, ça doit être comme un gros puits dans le fond d'un jardin. Il est un petit peu plus profond et un peu plus gros qu'un puits de jardin, en fait. Donc un peu plus profond, on va dire 100 mètres, 200 mètres de profondeur. Un peu plus gros, c'est-à-dire une dizaine de mètres de diamètre. Alors si maintenant je vous dis qu'un des plus gros champs d'exploitation de gaz de schiste est visible depuis la Station Spatiale Internationale, et qu'en avion, il faut quelques dizaines de minutes pour le survoler de bout en bout. Est-ce que vous revoyez votre estimation à la hausse ? Est-ce que vous représentez différemment le petit puits au fond du jardin ? Par exemple, aux États-Unis, dans les seuls états du Nouveau-Mexique et du Texas, il y a une surface comprise entre le quart et la moitié de la France qui est parsemée de petites pustules de puits de gaz de schiste. 300 000 puits, c'est un calcul que j'ai effectué à raison d'un puits tous les 300 mètres. Vous me direz donc que chaque puits, c'est pas en soi une structure démesurément grande. Comptez tout de même, pour chaque puits, une surface grande comme 1 à 3 terrains de foot en surface. Donc un champ de quelques dizaines de puits commence à sérieusement morceler le paysage. Et en profondeur ? La profondeur moyenne d'un puits, d'un forage, est de quelques kilomètres, donc entre 2 et 5 kilomètres, et les ramifications du puits, vu que le puits, on l'a vu, n'est pas vertical, couvrent une surface de plusieurs dizaines de terrains de foot. L'impact, donc, qu'on trouvait gros en surface, quelques terrains de foot, ce qui n'est pas non plus anodin, n'est donc rien du tout, comparé à l'impact en profondeur, où on perturbe les couches géologiques et les nappes d'eau souterraines sur quelques kilomètres carrés. En somme, ce qu'on voit en surface, c'est la partie émergée de l'iceberg, et il y a en dessous bien plus. Imaginez donc maintenant que si on, alors on avec des guillemets, on c'est-à-dire les hommes politiques évidemment, mais donc nous à travers eux, donc si on accepte la réalisation d'un tel projet, mettons en Ardèche, cela implique de déstructurer l'espace sur une surface équivalente à une grosse ville en surface, et d'autant plus en profondeur. Sans parler de la pollution chimique possible des nappes d'eau souterraines. Alors attention, bien contrôlée, il n'y en a pas, mais un accident est si vite arrivé. Par exemple, aux États-Unis, dans certaines villes de l'État de Pennsylvanie, on a même parfois vu l'eau du robinet s'enflammer, tant elle était chargée de méthane. Les couches souterraines contenant les gaz de schiste renferment également souvent beaucoup de matière organique. Et la matière organique piège des métaux lourds, comme le cadmium ou l'uranium, et ces métaux lourds sont toxiques en trop grande quantité. Par exemple, le cadmium, il peut remplacer le calcium dans les eaux du corps humain et les fragiliser. On aimerait autant éviter de retrouver dans nos robinets ou dans nos légumes irrigués par l'eau de nappe souterraine tous ces résidus. Mais bon, l'Ardèche, c'est loin et il n'y a personne qui y habite. Alors pourquoi s'en faire ? Comment moi, à Lyon, en écoutant Transistor, je devrais me sentir concerné par ces problèmes de campagnards, activistes et écolos ? Et pourtant, les eaux souterraines de l'Ardèche donnent naissance à quelques cours d'eau, et l'Ardèche elle-même se jette dans le Rhône. Donc polluée en amont, et tout l'aval en subit les conséquences. J'aimerais ici conclure et dire que, attention, malgré mon propos peut-être agressif à l'égard des gaz de schiste, je ne tiens pas à prendre parti. Chacun est pour ou contre, et il est évident que l'énergie produite en utilisant les ressources hydrocarbures piégées dans les couches profondes de l'Ardèche et d'autres départements, ça serait une formidable aubaine. Cela permettrait de moins dépendre des importations de gaz, parce que actuellement 98% du gaz français est importé, et d'assurer une production locale. Cependant, comme je l'ai très brièvement et très grossièrement évoqué ici, le choix d'exploiter ou non cette ressource n'est pas anodin. Car bien loin de l'appellation « puits » semblant presque anecdotique, il y a des modifications de l'espace très importantes qui appellent des consultations citoyennes. Or, les citoyens que nous sommes ne peuvent se positionner que suite à une prise de conscience et à une réflexion personnelle, qui ne peuvent être menées qu'avec un minimum de représentation des choses. Si on me parle de puits, et que je ne me renseigne pas plus que cela, je m'arrête à mon interprétation première du mot puits, et pourquoi je serais contre la construction de dizaines de puits en Ardèche. C'est quand même pas si gros un puits. Maintenant, si je me renseigne, et que je vois qu'au-delà du mot puits se cache bien plus, je vois que là, le débat a lieu d'être. Alors, chers auditeurs de Transistor, brisons nos codes, brisons nos idées reçues, allons au-devant des informations qu'on nous donne, et écoutons les chroniques de Démesure.
C'était Compteur d'ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.